la présentation de Jésus au temple et la purification de Notre-Dame. D'après la loi juive, tout enfant premier-né devait être présenté au temple peu de jours après sa naissance pour y être consacré à Dieu. Ses parents pouvaient cependant le racheter en offrant à sa place un agneau et une tourterelle, s'ils étaient suffisamment riches, ou, s'ils étaient pauvres, deux tourterelles ou deux petites colombes. De plus, la mère devait, elle-même, se rendre au temple pour s'y soumettre à une cérémonie qu'on appelait la purification. Vous pensez bien, mes chers amis, que l'enfant Jésus n'avait pas besoin d'être présenté au temple pour y être offert à Dieu. N'était-il pas Dieu lui-même? Vous pensez bien aussi que la très sainte Vierge, étant devenue la mère de Dieu par le grand mystère de l'incarnation, n'était pas, elle non plus, soumise à l'obligation de la purification. Cependant, Jésus et Marie se soumirent volontairement et librement aux prescriptions de la loi juive. Ils voulurent, par là, nous enseigner l'obéissance au commandement de Dieu, et aussi l'obéissance à ceux qui le représentent sur la terre. Obéissance au commandement de Dieu, au commandement de l'Église, obéissance à son confesseur, à ses supérieurs. Donc, 40 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph se rendent au temple de Jérusalem avec le divin enfant Jésus. Ils se présentent aux prêtres chargés ce jour-là d'accomplir les cérémonies de l'offrande à Dieu des nouveaux premiers-nés et de la purification de leur mère. Le prêtre récite, sur Marie et sur Jésus, les prières spéciales à ces cérémonies. Puis il reçoit, des mains de la Vierge, les deux petites colombes qui doivent être le prix du rachat de l'enfant Dieu. Car Marie et Joseph, pauvres, très pauvres même, veulent offrir l'offrande des indigents qu'ils peuvent présenter au Seigneur. Ils sont pourtant les plus riches de la terre, puisqu'ils possèdent Jésus, le roi des cieux. Mais ils se soumettent à toutes les lois. Quelle humiliation pour eux, l'offrande des pauvres, eux qui sont si riches. Ils acceptent. Marie et Joseph, apprenez-nous à accepter la pauvreté lorsque nous la rencontrons, et que nous ne soyons jamais orgueilleux pour refuser cette pauvreté. À peine la double cérémonie est-elle achevée qu'un saint vieillard, nommé Siméon, arrive au temple, poussé par l'Esprit Saint. Ce saint vieillard a, toute sa vie, attendu et imploré de Dieu la prompte venue du Rédempteur. Aussi Dieu, pour le récompenser dès ici-bas de son espérance et de ses ferventes prières, lui a-t-il annoncé un jour qu'il ne mourrait pas sans avoir vu de ses yeux le Sauveur tant désiré. Il attendait donc ce jour béni où il verrait le Sauveur. Mais voici que le Saint-Esprit vient de lui révéler que ce béni Sauveur est né et qu'il se trouve en ce moment dans le temple. Siméon accourt bien vite. Il aperçoit Jésus, Marie et Joseph. Il va vers eux et, rempli d'une immense joie, prend dans ses bras le divin enfant, puis se met à chanter le beau cantique qu'on appelle, d'après les mots par lesquels il commence, le Nunc Dimittis, qui veut dire « Maintenant, Seigneur, vous pouvez laisser votre serviteur partir en paix selon votre parole. Mes yeux ont vu votre salut, le salut que vous avez promis à la face de tous les peuples. » Et ce chant du Nunc Dimittis, les prêtres le récitent dans le bréviaire tous les soirs accomplis, les religieux le chantent. Après avoir achevé ce chant inspiré par l'Esprit-Saint, le pieux vieillard Siméon rend l'enfant Jésus à sa mère, la très sainte Vierge Marie. Et, toujours sous l'inspiration divine, il annonce à la Vierge « Cet enfant est au monde pour la ruine et la résurrection de beaucoup en Israël. Quant à vous, ô mère, un glaive transpercera votre âme. » Prophétie terrible que celle-là, mes chers enfants. Elle annonce les luttes, les persécutions, les souffrances et la mort par lesquelles le Sauveur doit racheter le monde. Elle prédit aussi les douleurs effrayantes que doit endurer le cœur de la meilleure et de la plus tendre des mères, à la vue des tortures du meilleur et du plus saint des fils. Marie, humblement soumise à toutes les volontés de Dieu, accepte cependant, avec une simplicité parfaite et une entière générosité, la sombre prédiction de Siméon. Puisqu'il le faut pour le rachat des hommes et que Dieu le veut ainsi, elle consent bien volontiers à subir, en union avec Jésus, les longues et affreuses épreuves qu'on lui fait entrevoir. Désormais, ces épreuves assombriront continuellement sa vie et feront d'elle la reine des martyrs. Toute sa vie, la Sainte Vierge se rappellera de cette parole du vieillard Siméon, « Un glaive de douleur transpercera votre âme. » Combien elle a souffert. Aimons-la, cette Sainte Vierge, notre mère, pour la consoler. Disons-lui que nous comprenons sa peine. Sur cette dernière et sublime leçon d'obéissance aux volontés divines, s'achève la scène de la présentation de Jésus au temple et de la purification de Marie. Elle avait débuté, vous vous en souvenez, par un grand acte d'obéissance de la mère et du fils, venant se soumettre, lorsqu'ils n'étaient point du tout obligés, aux humiliantes prescriptions de la loi juive. N'y a-t-il pas là de quoi nous faire rougir, mes chers enfants? Car, hélas, il est bien probable que vous n'imitez pas toujours l'obéissance de Jésus et de Marie. Eux se soumettent, sans mot dire, à tout, même à ce qui ne leur est pas commandé formellement. Tandis que vous... Mais rougir de ses fautes est bien, s'en corriger est meilleur. Ne vous contentez donc pas de rougir de vos désobéissances passées ou présentes. Prenez la ferme résolution de n'en plus commettre à l'avenir. Et parce que vous avez besoin pour cela de la grâce d'en haut, priez ardemment Marie, votre mère, par le mystère de sa purification et de la présentation de Jésus au temple, de vous obtenir cette grâce de son divin enfant, la grâce d'une bonne obéissance. nous allons terminer par une histoire. Une histoire qui rentre bien dans le contexte de ce mystère. Puissance de l'Ave Maria. Un grand évêque français du siècle dernier, Monseigneur Dupanloup, raconte en ces termes comment l'extrême puissance de l'Ave Maria lui fut un jour manifestée. « C'est, écrit-il, auprès d'un lit de mort, et en recueillant, en bénissant le dernier soupir d'une enfant qui m'était bien chère, une toute jeune femme à qui, naguère, j'avais fait faire sa première communion. J'avais coutume de ne jamais faire la première communion sans recommander à mes enfants la fidélité à cette simple et puissante prière, l'Ave Maria. Et cette jeune femme, elle avait à peine 20 ans et il y avait à peine 1 an que j'avais béni son mariage. Cette jeune femme, depuis sa première communion, avait été très fidèle à mes conseils. Et même, c'était une autre de mes recommandations, elle récitait tous les jours quelques dizaines du chapelet et, depuis 4 ans, elle le récitait tout entier. Fille d'un des vieux maréchaux de l'Empire et d'un des plus célèbres, adorée d'un père, d'une mère et d'un mari, adorée, là, je corrige, parce que adorée ne s'emploie que pour Dieu. Je n'adore que Dieu. Mes parents m'aiment, mais ils ne m'adorent pas. Je ferme la parenthèse. Riche, jeune, brillante, heureuse enfin d'avoir eu récemment un fils. Eh bien, au milieu de tout ce bonheur présent et de ses rêves d'avenir, tout à coup, à 20 ans, il faut mourir. Et c'est moi qu'on chargeait de lui porter cette terrible nouvelle. J'entrais. Sa mère était dans la désolation. Son mari désespéré, son père anéanti. J'entrais donc à travers toutes ces douleurs, et je ne savais comment aborder la malade. Je fus stupéfait quand, arrivé près d'elle, je lui trouvai le sourire sur les lèvres. La mort s'avançait, elle le savait, elle le sentait, et elle souriait, avec une certaine tristesse douce où la joie surnageait. Je ne pus m'empêcher de lui dire « Oh, mon enfant, quel coup !» Et elle, avec un inexprimable accent, « Est-ce que vous ne croyez pas, me dit-elle, que j'irai au ciel ?»« Mon enfant, lui répondis-je, j'en ai une grande espérance. »« Et moi, reprit-elle, j'en suis sûre. »« Qu'est-ce qui vous donne cette certitude ?»« C'est, me dit-elle, un conseil que vous m'avez donné autrefois. »« Et quel est ce conseil ?»« Quand j'ai fait ma première communion, vous nous avez recommandé de dire tous les jours l'Ave Maria et de le bien dire. » Je l'ai dit tous les jours, et même depuis 4 ans, je n'ai pas manqué un seul jour de dire mon chapelet tout entier. Et c'est cela qui fait que je suis sûre d'aller au ciel. Je ne puis pas croire, et c'est une pensée qui ne me quitte pas depuis que j'ai été frappée par la maladie. Je ne puis pas croire que j'ai dit tous les jours, et depuis 4 ans, 50 fois par jour, à la très sainte Vierge, « Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse, maintenant et à l'heure de ma mort, et qu'en ce moment où je vais mourir, elle ne soit pas près de moi. Elle y est, j'en suis sûre, elle prie pour moi, et c'est elle qui va m'introduire au ciel. » Voilà ce que me dit cette jeune femme. Et je vis alors un spectacle que rien ne pourrait retracer. Je vis une jeune et frêle créature, enlevée à la fleur de son âge, à tout ce qui est le bonheur ici-bas, à tout ce qui fait aimer la vie, quittant là, sur la terre, un père, une mère, un mari, un enfant tendrement aimé, quittant tout cela, non sans larmes, mais avec une sérénité radieuse, consolant ses vieux parents, bénissant son jeune enfant, encourageant son pauvre mari, et, au milieu de tous ces liens qui se brisaient, de tous ces embrassements qui essayaient en vain de la retenir, ne voyant que le ciel, ne parlant que du ciel. Et son dernier soupir a été un sourire à la grâce et à la gloire éternelle. Ô puissance de l'Ave Maria.